C'est le moment de la chronique livre en compagnie d'Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Novembre, c'est la saison des prix littéraires et justement, vous avez lu pour nous deux livres, un doublé pour Laurie Léveillé qui a remporté le prix littéraire du gouverneur général, catégorie jeunesse, texte et aussi l'autre titre, c'est, j'étudie un doublé de... Oui, parce qu'elle a, elle a remporté pour son livre Cuba. Mais elle a remporté deux prix.
Voilà.
Et puis l'autre, alors, c'est Katia Bel-Kodja, qui, elle aussi, a remporté le prix du gouverneur général, cette fois dans la catégorie romans et nouvelles, et elle est finaliste pour d'autres prix littéraires. Alors, des livres qui vous ont passionné, je pense.
Oui, que j'ai lu rapidement, parce que c'est le 4 novembre que j'ai su que Cuba était le titre gagnant du prix Alvin Bellil, remis par les milieux documentaires, et le 6 novembre, ben, le prix du gouverneur général. Alors, il faut savoir que c'est dans une petite collection qui s'appelle Micro. Micro parce que c'est très court, 71 pages. Et la courte échelle écrit qu'elle fait des textes qui sont très près de la langue orale pour questionner, s'indigner, révéler, dénoncer, témoigner ou simplement déposer des mots là où ça fait du bien. Parce qu'effectivement, on traite des sujets pour adolescents tout à fait d'actualité, des sujets coup de poing, dans un style oral qui permet finalement de rejoindre peut-être des non-lecteurs, en tout cas des lecteurs qui n'attaqueraient pas une brique. Qu'est-ce que ça raconte, ce livre-là de Laurie Léveillé? Bon, ben d'abord, je la connaissais pas. C'est une très jeune autrice qui a 30 ans, qui est née en Estrie, puis qui a fait l'École de l'humour et l'École nationale de théâtre. Elle a écrit des pièces, surtout elle travaille avec le public jeunesse, et elle raconte une soirée d'Halloween où il y aura finalement un problème parce que deux jeunes filles qui sont des amies de toujours se déguisent, une en ange, une en diable. Elle, puis une, il va vraiment à reculons. Ça, c'est la narratrice qui s'appelle Sam. Tout est raconté par elle. Même si parfois, il y a des dialogues qui sont intégrés, c'est comme un monologue, tout ce texte-là. Et elle va subir une agression sexuelle. C'est que pendant la soirée, bon, ben, les gens peuvent donner des billets à d'autres, mais ils sont tous déguisés, là. Et leur donner des rendez-vous intimes. Alors, ce qu'elle sait, c'est que sa meilleure amie, qui l'a traînée jusque-là, qui s'appelle Léa, ben, je suis un garçon qui a donné un rendez-vous intime au sous-sol. Et elle reçoit, un peu plus tard, elle aussi, un billet de rendez-vous intime au garage dans une heure. Elle ne sait pas trop si c'est une blague, elle se demande qui est-ce que c'est qui a bien pu lui envoyer ça. Puis c'est plus fort qu'elle, curieuse, elle va y aller, et c'est là que tout va se passer. Donc, à partir de là, elle garde ça secret pendant un certain temps, puis elle va finir par le dire à sa meilleure amie, qui va se sentir très coupable de ne pas avoir été à côté d'elle et pas avoir vu ça. Et ça, c'est des cas qui arrivent très souvent. Et je cite, « Aujourd'hui, son amie Léa, elle est tempête, grêle, puis grand vent. Debout devant moi, elle est un fleuve pas tranquille du tout. » Alors, elle veut se venger. Elle est dans une colère terrible. Puis elle va lui montrer les photos des gens qui étaient là, mais elle, elle a eu ça, c'est arrivé dans son dos. Alors, il faisait noir, la personne l'a pris de dos, elle a senti son parfum cheap, et sa gomme balloon ou saveur de fruits, mais elle ne l'a pas vu. Puis elle a fini par se sauver, évitant le pire. Et puis là, ben, c'est ça qui est le punch, c'est quand à la fin, on apprend tout le... la fin de le dénouement de cette énigme.
Le nom de l'agresseur?
Ouais.
L'identité, oui.
C'est ça. Et puis aussi, qu'est-ce qu'elles vont faire? Son amie, elle, elle va faire des cours d'autodéfense. Elle veut vraiment lui casser la gueule, mais elle dit non, moi, je ne vais pas faire ça comme ça. Alors, c'est très, très bien fait. Ça va susciter de belles discussions. Un très beau roman à mettre dans les mains de tous les adolescents. Pour les mettre en garde, il arrive trop d'histoires semblables à celle-là. Et puis, bon, ben, voilà.
Cuba, aux éditions La Courte Échelle, c'est un livre que Laurie Léveillé a signé et pour lequel a remporté le prix Alvin Bellil?
Alvin Bellil, oui.
Et
oui.
Le prix littéraire du gouverneur général. L'autre livre, c'est un livre dont on parle assez... Ben, j'en ai entendu parler la semaine dernière parce qu'il est finaliste pour le prix Radio-Canada Caroline Dawson et il vient de remporter le prix du gouverneur général. Il s'agit de « Les déterrés ».
Oui, de Katia Bel-Kodja. On saura vendredi le 21 novembre qui a gagné le prix Caroline Dawson, mais ça pourrait être celui-là parmi quelques autres très intéressants aussi. Alors, le roman s'appelle « Les déterrés » chez Mémoire d'Encrier, 400 pages à peu près. Alors, ce livre-là, c'est pas simple. C'est vraiment une brique dans ce sens que Katia Belkodja a finalement toutes les archives familiales chez elle pendant un bon moment, sans doute. Elle a fouillé tout ça. Elle est aussi la plus jeune de 4 générations de femmes qui, finalement, ont vécu là-bas. D'autres ont immigré ici au Canada, comme elle dit, même s'ils sont au Québec, dans la banlieue de Montréal. Il est toujours question du Canada, parce que pour les gens qui viennent d'ailleurs, le passeport canadien, ils sont très contents de vivre au Canada. C'est leur identité. Et puis, elle s'appelle Rim, l'autrice, dans le livre. Du moins, on pense que c'est elle. Et elle raconte comment, à l'âge de 10 ans, à peu près 9-10 ans, elle va venir vivre ici. Il est question, bien sûr, d'immigration, de guerre, de violence, de cet héritage familial très lourd, de la volonté de la transmission de ces traditions-là dans cette société moderne dans laquelle elle vit maintenant. Et puis, bon, ben, le livre s'est constitué de fragments. On a l'impression, ça c'est moi qui dis ça, qu'elle a écrit chaque jour un peu des souvenirs comme ça à mesure qu'elle fouillait les photos, les archives familiales, ou qu'elle a eu des conversations avec la famille, et que tout ça, ça a constitué des fragments qui sont impossibles à résumer, cette histoire-là, c'est vaste. Et puis ça, c'est réuni en 3 parties. La première partie, c'est l'enfant de Lunja, ben, c'est elle, la narratrice, qui est l'enfant de Lunja, et on apprend donc toute l'histoire de ces gens-là en Algérie. Ensuite, il y a les enfants tombes, référence à Régent Duchamp, qui parle de ceux qui sont des fantômes, finalement des enfants d'autrefois. Puis les déterrés, ben, c'est en référence à la terre, les racines, mais aussi à ces déterrés ES, donc ces femmes qu'on essaie d'effacer de l'histoire et qu'elle va faire revivre. Donc c'est un récit, c'est une saga familiale, puis qui est puis elle est très effacée là-dedans, l'héroïne qui s'appelle Rim, elle raconte. C'est celle qui a écouté, qui sait, qui fait des recherches, qui raconte avec beaucoup de verve, de passion, d'intensité et d'émotion ce qu'était cette vie-là d'avant dans sa famille. Et elle dit, je la cite, « Les mémoires d'Azias, c'est ma tâche de les débroussailler. Quand un grand-père fait des alexandrins pour le plaisir, c'est à l'écrivaillon de la famille qui choue le carton rempli de vieux cahiers, de photocopies, de duotangues, de cartes, de lettres. C'est à moi de faire l'inventaire, de lire, d'envoyer aux cousins respectifs les passages qui les feront pleurer. » Alors, sans doute que ça a dû être beaucoup d'émotion de raconter tout ça. Puis pour ne pas se perdre, ben, au début, il y a un arbre généalogique des personnages.
Bonne idée.
Que moi, j'ai copié. Ouais. J'ai copié sur une feuille. J'ai même augmenté avec des notes, j'ai annoté pour pouvoir me retrouver dans tout ça. Et puis, ça se passe en 2 temps. Il y a des gens qui immigrent en 96 et d'autres en 98 vont suivre. Et c'est le cas de sa mère et elle. Elle dit, je la cite, « Lunja, ma mère et moi, nous les avons rejoints puisqu'il faut toujours se rejoindre, puisque nous ne pouvons pas vivre les unes sans les autres. » C'est vraiment très beau. C'est plein d'anecdotes, d'observations, de commentaires qui s'est des paysans à souhait. Quand cette personne-là, qui n'est pas très vieille, là, nous raconte ses étés chez le grand-père dans la montagne, avec les olives, les figues, puis bon, ben, la chaleur, c'est incroyable comment on est loin d'ici, là. Et bien sûr, il y a des répétitions qui sont là comme un leitmotiv. Par exemple, son grand-père, ancêtre, disait « On peut tout te prendre, sauf ce que tu as dans ta tête. » Et ça revient à quelques reprises, et c'est comme si finalement, ça lui appartenait, tout ça, et elle avait le devoir de le transmettre. Et ça, c'est très beau, la transmission, comment elle hésite de parler de l'Algérie à son enfant d'une manière réaliste. Ça lui parle de la crème glacée, mais elle dit, je ne peux pas lui raconter les guerres et tout ça. Alors peut-être que pour les enfants futurs, il fallait écrire tout ça pour pas que ça se perde finalement. Et elle vit avec ça comme imprégnée. Elle dit, je la cite, Inès dit qu'on naît avec les guerres de nos parents marquées dans l'ADN des cellules. Il y a des femmes là-dedans, des femmes fortes, intenses, qui sont là pour assurer la transmission auprès des enfants. Il y a aussi tout le souci de faire comme en Algérie, pour pas perdre tout ce qui est à soi, tout ce qui est notre culture. Alors, le ramadan, le thé à la menthe, les dattes. Il y a aussi des pointes humoristiques parce qu'il y a quand même la guerre, des fusillades, puis des affaires très, très violentes là-dedans. Mais de temps en temps, elle nous lance des petites choses drôles. Par exemple, quand on lui demande à Rim, l'héroïne, d'où vient son accent, elle dit « Moi, je viens de Brossard. » Alors donc, ça déroute les gens qui essaient de lui trouver une nationalité. Puis aussi, à un moment donné, il y a une scène à l'école où quelqu'un veut aider Inès, je crois. Puis elle dit « Veux-tu l'aide? » Puis avec l'accent, elle la comprend de l'ail.
Ah oui?
Pourquoi on lui offre de l'ail? Elle dit « C'est-tu si populaire que ça, l'ail ici? » Puis ensuite, ben, elle se moque de tous les garçons qui ont des prénoms masculins, comme Jean-Pierre, Jean-Christophe, Jean-Philippe. Ils s'appellent tous Jean quelque chose, puis c'est vrai qu'on en a beaucoup. Il y a des observations sur notre mode de vie, nos façons de faire, nos traditions, les ventes de garage. C'est sa volonté de s'intégrer. Puis souvent, ben, c'est ça, on se retrouve là-bas. Elle nous amène dans son pays avec les odeurs, les parfums, les épices, la chaleur. Et la nourriture occupe une place très importante dans cette famille, comme toutes les familles immigrantes qu'on peut lire à travers des livres, mais qu'on voit aussi, puis qu'on rencontre. La transmission est très, très importante.
Qu'est-ce qu'on mange des yeux dans ce livre-là?
Oui, puis ça
fait... Qu'est-ce qu'on mange des yeux dans ce livre-là? Est-ce que vous avez un plat qui vous vient en tête?
Ben, le couscous.
Oui.
Et d'ailleurs, ça lui permet de se moquer de Ricardo qui dit qu'il mange du couscous avec du pain. Non, c'est deux pays qui n'ont rien à voir. Puis effectivement, ça ne va pas ensemble.
Tout se peut.
Oui, tout se peut. Tout est libre, effectivement. Je dirais qu'il y a une parenté avec Caroline Dawson.
Bien oui.
Il y a une parenté avec Alain Farah. Mm-hmm. Et moi, ça m'a fait penser à une conteuse algérienne que j'ai rencontrée lors d'un festival qui s'appelait Aïnifitène, qui racontait des histoires semblables à ça. Alors moi, pour tout ce travail effectué, je dis bravo, chapeau. Et je vous invite à lire ce livre qui se dévore. Hein. Il n'y a pas une trame avec un début, une intrigue, puis une fin. C'est plein de petits tableaux. Puis on apprend à connaître ces gens-là qu'on aime, auxquels on s'attache, parce qu'elle, elle les aime. Et ça se sent dans l'écriture, dans la volonté de leur rendre justice aussi. Bref, je pourrais en parler des heures.
J'avais adoré.
J'ai adoré.
Oui, je pensais aussi, vous avez évoqué Alain Farah, Caroline Dawson, Abla Faroud aussi, le bonheur à la queue glissante. Je ne sais pas si vous l'aviez lu, ce livre-là.
Oui, puis j'irais aussi avec Éric Chacot. Bref, tous ceux qui nous racontent leur immigration, ouais. Ça nous touche. On comprend ce que ces gens-là ont vécu. Puis pour avoir travaillé avec des gens de différents milieux, de différents pays, on comprend tout ce qu'ils ont fait pour venir ici, les sacrifices. Alors,
et tous les préjugés aussi, hein, parce que même s'ils sont installés depuis belle lurette au Québec, même s'ils sont nés ici, mais avec un nom qui n'est pas Tremblay ou, je sais pas, là,
voilà.
Tessier, elle disait, Katia Belkodjia, même si j'écoutais la bottine souriante, même si je disais que j'écoutais la bottine souriante à tous les jours, on me regarderait encore comme une immigrée, une qui ne fait pas partie de la gang, là, entre guillemets.
C'est long de pouvoir être intégré, puis ça...
Ça finit jamais, on dirait.
Exactement. Ouais. Fait que, bref, allez lire ça, c'est une très belle lecture.
Ah oui. Alors, ben merci Anne-Marie pour ces deux suggestions. Vous nous parliez de Les Déterrés, publié aux Mémoires d'Encrier. C'est pas son premier roman.
Non, elle en a écrit deux autres chez XYZ.
OK. Merci, à la semaine prochaine.
Au revoir.